Matière à penser, René Friedman.
Matière à penser, une émission en partenariat avec le quotidien du médecin. Nous terminons aujourd'hui notre série Sexualité et spiritualité. Et pour parler de sexualité ou de nos sexualités, j'ai le plaisir de recevoir Peggy Sastre, auteur de Nos sexes, publié chez La Musardine. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes Peggy Sastre, de formation philosophe. Vous êtes journaliste de réalisation, traductrice également de réalisation. Vous êtes blogueuse et vous avez publié un certain nombre de livres qui ont fait, on va dire, pour certains polémiques, en tous les cas, posent un certain nombre de questions.
Oui.
Hein, pas forcément dans le courant classique.
Oui, je suis assez hétérodoxe, comme on dit.
Ex-hétéro, pour en finir avec le féminisme. Les femmes ne font rien de ce qu'elles peuvent faire tant qu'elles seront, comment dire, bloquées dans leur constitution. Et donc, vous abordez donc dans ce livre de 2009 à La Musardine également. Nos sexes, dont nous allons parler, puisque nous avons évoqué toutes les spiritualités religieuses en particulier et la sexualité. Et là, on va terminer par une autre forme, peut-être de prise de position, ne pas avoir envie de faire l'amour ou avoir envie de ne pas faire l'amour. C'est la façon dont vous avez présenté votre titre, publié en 2010. En 2015, la domination masculine n'existe pas. Et donc, si l'homme a longtemps dominé la femme, c'est parce qu'elle l'a bien voulu. Ça, c'est votre...
À peu près, oui.
Votre position résumée, on va dire. Et en 2018, comment l'amour empoisonne les femmes. Donc, on voit bien que, d'ailleurs, vous suscitez un certain nombre de polémiques ou de discussions, on va dire, autour de ces thématiques sur la position du féminisme. Mais là, aujourd'hui, j'aimerais donc aborder une question qui est pas très connue. Peggy Sastre, et que vous avez essayé de justement de nous faire comprendre, c'est qu'il y a un certain nombre de gens qui très sincèrement et très librement, quand je dis sincèrement, je veux dire, c'est pas de façon contrainte, mais de façon choisie, décident de ne pas avoir envie, enfin, ou décident ou n'ont pas envie de faire l'amour et demandent une certaine reconnaissance, au point que il y a un certain nombre de sites sur Internet. Be tolerant, pour les amoureux platoniques, souvent réservés aux femmes. Key Love, Acitizen, et surtout Aven.fr, qui remonte dans sa création aux États-Unis il y a déjà plus, près de 15 ans, plus même, qui est un lieu d'échange de personnes qui ne sont pas, on va dire, portées sur le sexe. Pourquoi est-ce que cette question vous a intéressé?
Assez prosaïquement, en fait, c'est parce qu'on m'a commandé ce livre.
Vous n'y avez pas pensé toute
non,
seule.
Non, j'y ai pas pensé toute seule. D'ailleurs, D'ailleurs, c'est assez l'entreprise, enfin l'écriture de ce titre, de ce livre est assez intéressante pour comprendre le sujet, parce que donc ça a été une commande. Je connaissais pas bien et même pas du tout le phénomène. Et en fait, je suis partie avec mon éditeur sur un angle qui était en fait cohérent avec la production qui commençait à exister sur ce sujet, qui était en gros les asexuels, être asexuel c'est pas normal, c'est des gens qui ont un problème, c'est la nouvelle
variation,
une nouvelle en fait traduction du puritanisme, de la chasteté, etc. Et en fait, c'était très intéressant de faire ce livre parce que j'ai complètement changé d'avis en me confrontant aux faits, en fait.
Donc c'est-à-dire?
Bon, en fait, en rencontrant les gens et il y a eu deux axes de mon travail. Il y a eu une très longue qui a duré à peu près 6 mois, une très longue enquête, donc de rencontrer des gens ou principalement de leur parler sur Internet.
Oui, vous citez d'ailleurs dans le livre un certain nombre de témoignages.
Voilà, c'est toute la première partie. Et ça a été assez long parce qu'en fait, c'est des gens qui étaient très échaudés, visiblement. À ce que j'ai compris, quelques années ou quelques mois avant que j'arrive sur leur forum, il y avait eu une émission de la rue. Et qui s'était très très mal passé. On les avait fait passer pour des animaux de foire, etc. Donc ils étaient très très échaudés. Et ça, mais Et ça m'a pris beaucoup de temps, en fait, de gagner leur confiance, ce genre de choses. Et le deuxième axe de mon travail, c'est les études scientifiques qui au début des années 2000 commençaient à être très sérieuses. Parce qu'en fait, ce qu'il faut aussi noter, c'est que même scientifiquement parlant, le phénomène d'asexualité est très récent. C'est que depuis 1990 qu'il y a eu une échelle de la sexualité humaine, qui reprend en gros la variation de Kinsey avec les différents.
Le rapport Kinsey, voilà, sur la sexualité.
Voilà, et en 90, c'est la première fois en fait que cette échelle a un grade zéro. Donc des gens qui n'ont aucune attirance sexuelle, ni homosexuelle, ni hétérosexuelle, ni bisexuelle. Donc là-dessus, en fait, voilà, il y a eu toute une inertie qui a fait que les études scientifiques ont mis un certain temps à arriver. Quand j'ai commencé mon travail, donc c'était vers 2008, hein, quelque chose comme ça, il y avait deux ou trois études très sérieuses sur le sujet. Donc ça, voilà, c'est le deuxième axe de mon livre, les recherches scientifiques. Et en fait, se confronter à ça m'a fait comprendre en fait que j'étais parti sur une mauvaise, voilà, sur une mauvaise compréhension de la chose, et que la sexualité n'est pas du tout une maladie, c'est justement le degré zéro d'une variabilité quasi infinie de d'orientation sexuelle, en fait, parce que la sexualité est une orientation sexuelle. C'est pas un choix, on décide pas de devenir asexuel. Après, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, il y a différents profils.
Bien sûr, il y a différentes asexualités, voilà, voilà, aussi, d'ailleurs, mais comme de tout.
Mais la base à savoir, c'est que voilà, c'est une orientation sexuelle, donc c'est pas un choix, c'est quelque chose qui se manifeste très très tôt dans la vie des individus et qui ensuite se cristallise au gré de leur expérience.
C'est-à-dire que ce qu'on a vu aussi dans toutes ces émissions de France Culture autour de la sexualité et société, les premières émissions, on a écouté, avec plaisir d'ailleurs, des sexologues différents qui disaient qu'ils étaient confrontés à des gens qui avaient par exemple une perte de la libido, donc c'est aussi une façon de... Mais qui en souffraient. Et la différence, la différence de, et c'est important à faire passer comme message, c'est que les gens que vous avez interviewés, si j'ai bien compris, ne souffrent pas de cette situation.
Non,
ils revendiquent leur identité de ce type-là, mais ne souffrent pas, à la différence d'autres qui peuvent effectivement avoir un vécu différent, mais en tous les cas une libido zéro ou presque zéro, et qui vont voir des médecins pour être réhabilités dans ce qu'ils estiment être la norme, on va dire. Hein.
Tout à fait, c'est ça. Si les asexuels peuvent souffrir de quelque chose, c'est le regard qu'on porte sur eux en justement les confondant avec ces personnes-là qui souffrent d'une perte de libido, parce qu'il y a eu un changement, il y a eu un changement de leur vie pour différentes raisons. Et c'est aussi le versant militant, donc de AVEN, l'association qui a été créée en 2001 et qui a aussi un site français. Mais à l'origine, c'est, je dis pas de bêtises, je crois que c'est américain, mais c'est peut-être canadien, mais c'est nord-américain, en tout cas. C'est que ça a été créé en 2001 par un certain David Jay. Et au début, c'est encore le cas aujourd'hui, mais ça a évolué parce que c'était plus radical à l'époque. Ils combattaient l'idée, d'être justement classé dans le trouble hypoactif de la libido. En fait, ils combattaient en fait le fait d'être considérés comme des malades.
Oui, parce qu'il faut bien dire qu'il y a une classification de toutes les maladies neurologiques et psychiatriques faites en particulier par les États-Unis, aux États-Unis, et qu'à l'intérieur de cette classification, qui est très vaste et qui est remis à jour quasiment en permanence, on en est à la 5 ou à la 6, je ne sais plus, et de cette classification. Et donc, effectivement, les asexuels, dont on va redéfinir que c'est bien différent de la chasteté et d'autres situations, étaient considérés ou sont considérés comme des anomalies, comme une maladie devant être traitée. Alors on va y revenir tout à l'heure. Et j'aime bien l'entrée de votre livre sur Tolstoï, parce que ça m'a permis de relire d'ailleurs la sonate à Kreuzer, Et je trouve. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur pourquoi vous avez commencé par prendre cette référence livresque?
Parce que j'aime bien souvent qu'on commençait mes livres ou mes articles par une référence littéraire ou mythologie. J'avais fait la mythologie dans Exutero. Je sais pas, c'est une technique que je trouve, c'est une bonne technique,
d'accroche,
et c'est aussi, ça révélait justement les malentendus et la méconnaissance, en fait, qu'on peut avoir sur la sexualité. Parce que Tolstoï, enfin, vraiment, pour résumer à gros traits, la sonate à Kreutzer, c'est l'histoire d'un homme qui devient fou à cause du sexe. Et qui ensuite fait tout un tas de théories qui sont d'ailleurs assez proches de ce qu'on disait à la fin des années 1800 sur les premiers documents scientifiques sur la sexualité, comme quoi quand on arrête de faire du sexe, en fait, c'est qu'on a eu un trop plein. Et donc il y a une histoire de purge, enfin une notion comme ça de purge, c'est
purification.
Voilà, de purification, c'est toujours très lié au péché, etc. Et c'était mon idée, c'était partir de là justement, et pour montrer que non, la sexualité n'est pas ça.
Alors, effectivement, Tolstoï dit que la continence est possible, que l'amour physique est un état animal, que il est contre la contraception parce que le rapport physique doit être avoir une possibilité de conception, et il est bien sûr très imprégné du renoncement chrétien, je dirais, à tout pour l'amour de Dieu et de son prochain, mais pas pour l'amour de soi-même. Donc pas se faire plaisir. Donc on va retrouver ça d'ailleurs dans toutes nos émissions sur spiritualité et sexualité, bien entendu. Alors on est donc avec des interviews qui suivent cet exemple littéraire que vous prenez sur le Tolstoï, et qui nous permettent de mieux comprendre qu'il y a plusieurs types d'abstinence sexuelle. Dites-moi si je dis les choses. C'est-à-dire qu'il y a des abstinences qui sont imposées, bien entendu, soit parce qu'il y a une réflexion philosophique, soit parce que justement il y a un engagement religieux qui va dans ce sens-là, soit parce que l'abstinence sexuelle est subie, c'est-à-dire qu'il y a un handicap, une impuissance, il n'y a pas de partenaire, il y a des anomalies ou constitutives, ou par exemple les eunuques, pour prendre cet exemple-là. Et puis il y a une abstinence sexuelle qui est invisible, qui n'est pas donc dans ce registre-là, et c'est de celle-là que l'on parle, niveau zéro de la libido. On a classé donc... dans le langage, on a fait les homosexuels, les bisexuels, les transsexuels, et je dirais arrive donc ce 1% à 2% de la population qui prône, enfin pour eux-mêmes, en tout cas, l'abstinence sexuelle. Est-ce que c'est une ad vitam aeternam, si je puis dire, ou est-ce que c'est aussi des passages?
Ça dépend, mais le point sur lequel j'aimerais insister, c'est que il n'y a pas forcément d'abstinence. Et c'est ça qui est très intéressant dans les profils, c'est qu'il y a des asexuels qui sont effectivement abstinents, donc la sexualité, il faudrait peut-être le répéter, c'est juste une absence de désir sexuel pour quiconque. Et ça ne se traduit pas forcément par de l'abstinence.
Vous voulez dire qu'on peut avoir une relation sexuelle physique sans forcément avoir le désir de le faire.
Voilà, tout à fait. Et il y a aussi d'autres. Il y a aussi dit après les profils se complexifient encore davantage. C'est-à-dire que il y a des asexuels qui peuvent avoir des rapports sexuels, et au sein de cette catégorie-là, il y a ceux qui ressentent du plaisir et ceux qui n'en ressentent pas. Il y a aussi la catégorie des asexuels qui ont ou non des fantasmes. Il y a les asexuels qui se masturbent ou pas. Il y a les asexuels abstinents, et au sein de cette catégorie-là, il y a les asexuels abstinents qui se masturbent ou pas. Donc il y a toute une hétérogénéité des profils, et c'est vraiment ça qui est vraiment très intéressant, c'est voir comment en fait sur une base qui est très simple, qui est nous ne ressentons pas de désir sexuel pour quiconque, en fait se germe en fait toute une diversité de profils et d'expériences que j'ai essayé de retranscrire avec le plus de précision possible dans mon livre.
Est-ce qu'il y a aussi des gens qui se pensent, enfin se vivent comme asexuels parce qu'ils ont une espèce de refus, d'opposition à ce qui est la séduction, à ce qui est la sensualité, à ce qui est l'érotisme? Ouais,
très très peu. Ça aussi, ça a été une grande découverte dans les gens que j'ai rencontrés et avec lesquels je me suis entretenue. C'est-à-dire que je partais avec l'a priori qui est très commun, qui c'est des gens en gros qui sont asexuels qui se disent asexuels, mais qui en fait ce terme-là, c'est plus pour justifier un manque, et donc que c'est des gens qui sont pas à l'aise dans la séduction, tout ce genre de choses. Mais ça encore, ça a été un a priori qui a complètement été éclaté en me confrontant justement aux gens qui se disent asexuels, parce que c'est vraiment une revendication, en fait. C'est vraiment la plupart des asexuels, ils sont très peu militants. C'est pour ça aussi que j'ai eu beaucoup de mal à trouver des, enfin, j'ai mis beaucoup de temps à trouver des témoignages, parce que c'est des gens qui en moyenne, ne veulent pas vraiment parler
d'eux. Ils font pas un coming out.
Voilà, tout à fait. Ils sont pas du tout dans la militance. Enfin, beaucoup moins que, mais aussi, il y a d'autres raisons à ça. C'est-à-dire que, par rapport à un homosexuel, un bisexuel, un transsexuel, un transgenre, ce genre de d'orientation, d'identité sexuelle là, la sexualité passe quand même beaucoup mieux dans la société. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'asexuels, je pense qu'il n'y en a aucun qui se sont fait virer de leur boulot parce qu'ils étaient asexuels, qui ont été agressés, tout à fait, ou qui ont eu des cabales sur les réseaux sociaux, etc. Donc faut aussi voir les nuances, et qui explique pourquoi ils sont moins militants que les autres.
Vous faites donc référence à différentes situations historiques, en particulier les thesmophories grecques, qui est la volonté des femmes grecques de faire une abstinence pendant 3 jours et d'être remplacées par les hommes pour tout ce qui est récolte et tout ça, et de pouvoir, se témoigner leur féminité libre de toute soumission, en tous les cas, à l'homme. C'est une pièce d'Aristophane que vous reprenez, mais il y a aussi l'Isistrata qui prône. Donc,
là, c'est la grève du sexe.
Là, c'est la grève carrément.
Elle, c'est plus politique.
C'est contre la guerre.
Tout à fait.
Hein, là, c'est vraiment contre la guerre. Et puis, il y a ce qu'on appelle en Albanie, vous faites référence aussi à des vierges sous serment qui prennent le comportement masculin.
Ouais, c'est très intéressant ce phénomène-là, parce qu'en fait c'est lié au fait qu'en Albanie, il y a les codes d'honneur qui font que beaucoup de familles sont privées de fils, parce que soit ils sont cachés parce qu'ils ont une vendetta sur eux, soit ils sont morts. Et donc il y a cette coutume qui fait que des femmes
peuvent... Il y a ça dans beaucoup de pays, mais là il y a une coutume.
En Albanie c'est d'autant plus, c'est d'autant plus fort. Et en fait les femmes peuvent accéder au statut des hommes, c'est-à-dire elles peuvent porter des costumes, il y a certains instruments de musique qui sont interdits aux femmes, là elles peuvent en jouer, elles peuvent fumer, elles peuvent jouer, mais en échange il faut qu'elles promettent de rester vierges et de jamais se marier, etc. Et donc cette espèce d'échange, cette espèce de marchandage entre tu es une femme et tu atteins un statut d'homme dans des sociétés pour le coup qui sont fondamentalement patriarcales. C'est aussi très intéressant de mettre ça en rapport avec la sexualité qui est beaucoup plus simple. Et
on a aussi, vous citez le mariage de Boston, qui est aussi avec un livre d'Henry James, Les Bostoniennes. On est après la guerre de sécession, donc là aussi on manque d'hommes, on va dire. Et les femmes, alors on ne sait pas si c'est ces couples de femmes qui se mettent ensemble.
Parce que depuis il y a eu des... depuis, il y a eu des recherches, et ça peut être aussi une façon de faire, c'était peut-être aussi une façon de faire passer des couples lesbiens, et sans les.
On se demandait, oui, violences. Si c'était vraiment une chasteté affirmée, une amitié chaste, ou bien une homosexualité déguisée. Mais en même temps, pourquoi ça à Boston? Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette flambée, on va dire?
C'est souvent lié. C'est comme en Albanie, c'est souvent lié à des questions démographiques. Là, c'était après la guerre de sécession. Il y avait beaucoup d'hommes étaient morts au combat. Donc c'est ce genre d'adaptation de démographique. En fait, ça ouvre sur d'autres sujets, mais le pouvoir de la démocratie de la démographie en fait est souvent sous-estimé.
Et enfin, j'aimerais que vous entendre sur la différence entre la sexualité et l'ascétisme, parce que vous faites référence dans le livre sur l'hindouisme, qui vise à échapper au cycle des renaissances, et donc où on diffuse l'idée qu'il faut contenir, pour l'homme en tous les cas, contenir son sperme et ne pas le laisser partir, ici ou là, parce que ça donne la force. Et Gandhi prône un homme chaste, vainqueur. Donc l'ascétisme et la sexualité, vous montrez dans le livre Peggy Sastre sur nos sexes, que c'est bien différent, l'ascétisme étant volontaire.
Et encore une fois, dans l'ascétisme, il y a toute cette notion, en gros, on se punit pour accéder à une dimension supérieure, alors que pas du tout avec la sexualité. Voilà, c'est très très simple, c'est juste, point, une orientation sexuelle, zéro.
Un peu de musique.
You could say she was a sex fiend. I met her in a hotel lobby, masturbating with a magazine. She said, "How'd you like to waste some time?" And I could not resist when I saw little Nikki grind. So many devices, everything that money could buy. She said, "Sign your name on the dotted line." The lights went out and Nikki started to grind. Nikki. Castle started spinning. Oh, maybe it was my brain. I can't tell you.
Matière à penser, René Friedman.
Vous êtes sur France Culture en compagnie de Peggy Sastre, auteure de Nos sexes et qui termine notre série Spiritualité et sexualité. Ça la termine d'une certaine façon, évidemment, puisqu'on est en libido zéro. Est-ce que ça veut dire qu'on est en spiritualité maximum? Je ne sais pas. Mais c'était intéressant de lire ce livre, de vous recevoir, Peggy Sastre, et de pouvoir énoncer peut-être ce qui est une situation, une orientation qui n'est pas très connue, qui est celle effectivement des gens qui temporairement ou de façon plus constitutionnelle n'ont pas d'attirance pour la sexualité. Ce qui ne veut pas dire, et vous l'avez bien mentionné, qu'il y a parfois quelques relations sexuelles, mais sans plaisir, et sans recherche et sans... obsession, comme ça l'est
un peu. Il peut y avoir du plaisir, mais...
Dans notre... Oui, alors, mais c'est pas quand même recherché comme un élément répétitif et obsessionnel, alors qu'on est dans une société médiatique importante, de ce point de vue-là, où le sexe emplit un peu les écrans et les affiches. Alors, ça a été abordé, on l'a cité tout à l'heure, cette situation donc de asexualité. Ça a été abordé aussi sur un plan clinique, et il y a eu beaucoup de discussions, à savoir, est-ce que c'est une pathologie ou est-ce que c'est pas une pathologie? Et en 1886, on parle de Krafft-Ebing, parle des anesthésiques.
Anesthésiques. Alors c'est très intéressant cette première apparition dans la littérature scientifique des asexuels, donc voilà, qui à l'époque étaient appelés les anesthésiques, parce que tout en étant très très critique, enfin très négatif en fait sur ce phénomène, Krafft-Ebing quand même observe, enfin il restait scientifique, donc il ne pouvait pas non plus dire complètement n'importe quoi. C'est le premier qui observe qu'il y a une forme innée et une forme acquise.
C'est-à-dire.
Donc la forme innée, voilà, c'est ce qui aujourd'hui est le plus proche de ce qu'on considère comme la sexualité. Donc c'est pas un choix, ça arrive très tôt. Et la chose amusante avec Krafft-Ebing, c'est qu'il attribue ça à ce qu'il appelait une anomalie congénitale, et en fait une scission. Il était très dualiste. Il estimait qu'il y avait une scission entre le cerveau et les organes génitaux, parce qu'il observait que les asexuels, et notamment les femmes, avaient des fonctions biologiques tout à fait normal, qu'elles avaient leurs règles comme tout le monde, qu'elles pouvaient lubrifier, les hommes avaient une capacité érectile, etc. Mais que vu qu'ils n'avaient pas de désir sexuel, il y avait dû se passer un problème au niveau du cerveau, et c'est ce qu'il appelle une anomalie congénitale. Et la deuxième forme d'anesthésie, donc les anesthésiques de Krafft-Ebing, c'est la forme acquise. Et là, on retrouve tous les poncifs de la première sexologie à la fin du 19e siècle. Il parle de masturbateur taré. Il dit que l'anesthésie acquise, c'est parce que voilà, on a eu trop de sexe, et donc on s'est détourné de ça au cours de sa vie. Ça, c'est intéressant à voir, que c'est une vision que peuvent avoir certaines féministes radicales comme Valérie Solanas. Valérie Solanas, elle dit faut avoir beaucoup baisé pour être anti-baise, pour devenir anti-baise. Il y a cette notion, voilà, de toujours on reste en fait dans toujours dans cette espèce de notion, une espèce de rédemption du
ceci étant les ravages de la culture chrétienne, donc dans le sens de la rédemption, l'abstinence, je dirais imposée, que ce soit Jésus, Newton, Beethoven ou Kant, qui sont notés d'ailleurs dans votre livre. On a des interventions bien sûr de Havelock Ellis, et puis bien sûr de Sigmund Freud dans ce domaine. Mais tout ça va aussi être un élément pour caractériser cette situation de asexualité, privatif donc, comme quelque chose de pathologique, décrété comme pathologique. Et là, on se demande si l'industrie pharmaceutique n'est pas derrière tout ça pour essayer de vendre des produits qui lèveraient la libido zéro.
Oh bah ça c'est je pense que c'est un peu un serpent de mer, c'est un peu un serpent de mer qui circule sur beaucoup de sujets. Ce qu'on appelle le Viagra féminin qui est aujourd'hui en phase de test clinique.
Qui semble ne pas fonctionner.
Voilà, et ça fonctionne très mal. La taille d'effet est très faible. Je crois qu'on gagne 10%. C'est assez médiocre. Mais en même temps, c'est voulu par des patientes qui ne sont pas asexuelles parce qu'en fait elles souffrent de ce manque de libido, qu'elles aient observé un changement, c'est-à-dire qu'avant elles en avaient et après elles en ont moins ou elles en ont plus, que ça a été toujours comme ça, mais chez elles c'est une gêne, donc ça ne concerne pas des asexuels en fait.
On voit d'ailleurs chez les hommes que si le Viagra fonctionne pour l'érection, il faut qu'il préexiste une libido.
Ça dépend en fait, parce qu'il y a des études assez intéressantes qui montrent qui laissent entendre que le Viagra aurait sur certains hommes un effet en fait générateur de désir.
Alors, il y a différents chercheurs, donc en particulier Anthony Bogert,
un Canadien,
qui a estimé, donc c'est le premier qui essaie de chiffrer un peu cette population d'asexuels. Et alors, je crois avoir lu qu'en fait, c'est une population en termes de nombre qui serait identique à celle des homosexuels. Je pensais qu'il y avait...
Bogart estime que, voilà, que les asexuels, je crois que c'est entre 1 et 3%, et les homosexuels, c'est entre 3 et 6%. Donc, on reste dans le même ordre de grandeur. Mais effectivement, les homosexuels sont en proportion plus nombreux que les asexuels.
Et alors, il y a quand même une situation, on a vu d'ailleurs dans nos émissions précédentes, qu'il y a une certaine catégorie qui d'hommes en particulier, qui ont les premiers rapports sexuels sont repoussés, même si la moyenne reste autour de 17 ans. Il y a quand même une catégorie qui repousse. Alors, est-ce que c'est une asexualité, on va dire, retardée? En tous les cas, non, une sexualité retardée, donc une asexualité qui s'étend un peu, parce que vous pensez que les rapports hommes-femmes dans nos sociétés ont changé et peuvent bloquer, en tous les cas, certains hommes qui ne cherchent pas la performance, mais qui cherchent une relation. Qu'est-ce que vous pensez de cette évolution de la société par rapport à la relation homme-femme, qui est une de vos thématiques, et est-ce que l'asexualité s'inscrit là-dedans?
Je pense pas du tout. Je pense que vraiment la sexualité est une orientation qui n'est pas du tout réactive en fait. J'ai interviewé un peu plus d'une centaine de personnes. Sur cette centaine de personnes, il y a qu'une personne, un homme de mémoire, qui est asexuel, qui est devenu asexuel à la suite d'une agression sexuelle. Donc ce côté réactif qu'on peut considérer comme réactif, mais dans la plupart des cas c'est pas du tout le cas. Ça a toujours été présent comme toutes les orientations sexuelles. Et moi, le phénomène qui m'intéresse et qui m'interpelle le plus aujourd'hui sur les jeunes générations et notamment aux États-Unis, récemment je suis tombée sur une très récente enquête conséquente qui montrait en fait que quasiment toutes les premières relations sexuelles aux États-Unis, que ça soit les filles ou les garçons, se font sous l'emprise de l'alcool. J'ai pas envie de dire que c'est préoccupant, mais ça me préoccupe quand même. Ça me préoccupe quand même un peu.
Il faut lever un frein.
Voilà, qu'il y a quelque chose, qu'il y a une espèce de puritanisme qui est devenu un peu fou, comme ça, qui à la fois le sexe est considéré comme vraiment quelque chose de très nocif, de très dangereux, il faut faire très attention, il y a tout le retour aux États-Unis, des cérémonies de chasteté, les pères mettent un anneau à leur fille, la virginité redevient très importante. C'est pas comme si c'est pas comme si un jour elle avait été dévalorisée, mais là, elle redevient de manière très très forte et très significative. Ce qui m'interpelle en tout cas, c'est cette idée, ce phénomène que pourrait traduire le fait que la majorité des jeunes Américains ne peuvent visiblement pas avoir leur premier rapport sexuel sans une béquille en fait d'alcool.
Ça me préoccupe. On a cherché quand même, il y a eu des recherches qui sont faites ici ou là sur les causes de la sexualité, encore une fois, et l'apostrophe. Vous dites que, parce qu'on pourrait penser qu'effectivement c'est une conséquence d'une violence sexuelle qui est pratiqué chez un enfant ou au stade d'enfant ou un peu plus tard, ce qui ne semble pas être le cas en tous les cas dans vos invités que vous avez interrogés. Est-ce qu'il peut y avoir une asexualité qui est liée à une espèce de phobie du contact, du phobie que ce soit la peau, l'odeur, enfin tout contact avec l'autre?
Ça aussi, ça dépend des profils. Il y a effectivement des profils d'asexuels qui, je pense, ont des points communs avec des syndromes autistiques qui sont en fait des problèmes de relations sociales qui ensuite se traduisent sur les relations amoureuses, affectives, etc. Mais il y a aussi des asexuels qui peuvent avoir des relations romantiques, qui peuvent tomber amoureux en fait, et qui aiment les câlins, les contacts physiques tant que c'est pas génital ou sexuel. Et ça aussi, les profils sont très très différents.
Vous avez évoqué tout à l'heure qu'il y a dans ce différent type de asexualité, il y a des asexuels qui se font plaisir par masturbation en particulier, ou bien qui ont ou qui n'ont pas des fantasmes. Et là aussi, vous avez vu une répartition.
Tout à fait. Et la chose très intéressante, moi-même que j'ai trouvé amusante dans mon échantillon d'asexuels avec lesquels je me suis entretenue, c'est que beaucoup d'asexuels qui ont une activité masturbatoire parlent de ça en fait en termes très mécaniques. Et vraiment, même à ce niveau-là, comment dire. Même au niveau de justement, c'est pas de l'auto-érotisme comme on peut parler souvent de parfois de la masturbation, c'est vraiment une fonction, c'est très organique, c'est même s'il déclare en retirer du plaisir, mais c'est très froid, c'est très mécanique,
objectivé.
Voilà, c'est très objectivé.
Est-ce que la sexualité, toujours asexualité, est-elle dangereuse, comme le prône Agnès Giard et Jacques Weinberg?
Non, pas du tout, ça c'était vraiment un article qui m'avait fait bondir.
Énervé
non, parce que... Énervé non, parce qu'en même temps je m'énerve pas souvent, mais non,
oh,
ça m'est...
Ça c'est pas vrai.
Si, c'est vrai.
Ah bon?
Je suis très très peu.
Là, vous êtes en train de vous énerver. Alors,
ça m'avait plus agacé, ça m'a fait. Enfin, en fait, j'ai un rapport assez hostile à tout ce qui est faux. Quand je rencontre des choses fausses ou des notions fausses, ça.
Mais pourquoi ils disent que c'est dangereux? Quelle est leur thèse?
Alors, Weinberg, c'est la thèse psychanalytique qu'on retrouve depuis Freud. C'est le côté, c'est anormal. Vu que la sexualité en deux mots est la norme, la sexualité en deux mots aussi, mais avec une apostrophe. C'est une anomalie, mais une anomalie pathologique. Enfin, si ça existe, voilà, c'est le signe d'une pathologie et de quelque chose qu'on doit corriger.
La sexualité, encore une fois, c'est un danger, mais pour la reproduction. Parce que qui n'a pas de rapport sexuel, encore qu'on pourrait faire une fécondation in vitro à tout le monde, mais c'est pas vraiment l'objectif. Même s'il y a une ouverture pour tous et pour toutes. On n'a pas encore proposé de faire ce genre de reproduction pour les...
Et ça aussi, ça dépend des profils.
Quelle est la position par rapport à la famille, un désir d'enfant ou pas?
Ça aussi, ça dépend des profils. Il y a des asexuels qui veulent avoir des enfants, d'autres qui ne veulent pas. D'autres qui veulent avoir des enfants, qui sont prêts à, en gros, passer à la casserole pour en avoir. D'autres qui, pas du tout, veulent en passer autant que possible par des voies artificielles.
On a de temps en temps, je veux dire, dans nos patientes et patients, quelques couples qui manifestement ont des difficultés relationnelles sexuelles, pas relationnelles
fait,
de couple, mais affectives, et qui font appel à l'artifice médical à ce moment-là. Est-ce que ce ne serait pas, je vais un petit peu dans la position psychanalytique, une forme de peur de l'amour, au sens tout ce que ça peut déstabiliser, de tomber dans l'état amoureux?
C'est pas mon appréciation du phénomène, en fait. Parce qu'encore une fois, j'ai rencontré des asexuels qui étaient très amoureux, qui étaient j'ai une asexuelle qui était tellement amoureuse de son compagnon qu'elle était, en fait, il faisait l'amour, mais elle, c'était vraiment une notion de sacrifice amoureux. C'était vraiment, je l'aime tellement que je suis prête à dépasser mon asexualité et faire l'amour avec lui.
Donc là, en fait, Peggy Sass, dans ce livre, qu'on vous a commandé, vous l'avez bien dit au début, vous n'avez pas voulu faire de démonstration militante, vous avez simplement voulu montrer la réalité et peut-être que l'on prenne conscience qu'il y a une population qui n'est pas malade, qui le vit bien, qui n'est pas, qui le vit bien, qui n'est pas dans la souffrance, on va dire. Si elle est dans la souffrance, elle peut essayer d'avoir des prises en charge, mais ce n'est pas le cas toujours, et qui peuvent être, satisfaits de cette façon-là s'ils trouvent, en tous les cas, dans leur entourage une reconnaissance,
tout à fait.
Pas une mise à l'écart.
Ou en fait une indifférence, c'est même pas une reconnaissance, c'est une indifférence, en fait.
Je parle surtout dans leur... parce que parfois, ils sont en couple.
Bien sûr.
Et donc, une reconnaissance.
Oui, une acceptation.
Une acceptation de la situation. Comment vous avez, je le disais...
En fait, le couple idéal, c'est deux asexuels ensemble.
oui. C'est pour ça qu'il y a les sites de rencontre qu'on évoquait tout à l'heure. Vous dites aussi, alors ça c'est plus votre position militante qui entraîne des controverses, c'est que le pire ennemi des femmes, ce n'est pas l'homme, ce sont les femmes.
Oui, les femmes entre elles, ça c'est toute ma formation darwinienne sur tout ce qui est la compétition intrasexuelle chez les animaux, les mammifères en particulier. Il y a, et d'un point de vue personnel, c'est aussi... comme ça que je suis venue au féminisme, parce que...
Un certain féminisme, puisque si j'ai bien compris, vous vous opposez à certains courants féministes.
Oui, je m'oppose
lesquels?
En fait. Bah globalement, tous les féminismes, en fait, qui nient la dimension animale, biologique, mammifère et évolutive de nos existences. C'est ce que j'appelle avec France Deval soit le néocréationnisme, soit le créationnisme mental. C'est l'idée qu'on accepte que nos corps, nos physiologies ont évolué, voilà, que nos poumons traitent l'oxygène pour une certaine façon, pour une certaine raison évolutivement explicable, mais que en gros à partir du menton, nos comportements n'ont rien à voir avec la biologie, n'ont rien à voir avec tout ce qu'on sait sur les autres espèces humaines. On serait une espèce de création. Une création ex nihilo, et ça, c'est faux, et c'est à la fois faux, et c'est contre-productif pour la lutte, pour l'égalité entre hommes et femmes dans la société.
Mais, justement, vous dites, Peggy Sass, que les femmes ne feront rien dans la vie tant qu'elles auront un utérus. Alors, ça veut dire quoi?
Ben, ça, c'était ex utero, pour en finir avec les féminines, c'était montrer que le principal handicap féminin, si on est si, ah, parce que j'ai quand même évolué de cette position là à l'époque, j'étais encore en tout cas plus que maintenant sur une espèce de vision très égalitariste, dans le sens où l'idéal, c'est en gros qu'on y aura plus, enfin pas égalitariste, indifférentialiste. C'est-à-dire que le progrès ultime, c'est voilà qu'il y a plus qu'une différence entre les hommes et les femmes, et vu que la grosse différence entre les hommes et les femmes, c'est que les femmes portent les enfants et pas les
donc
hommes.
Vous étiez pour l'utérus artificiel.
Tout à fait, mais je le suis encore, parce que globalement, en fait, j'aime beaucoup les, comment dire, je suis très favorable à tout ce qui, c'est un peu bébête, hein, mais tout ce qui change, toutes les modifications possibles, tout ce qui ouvre en fait les possibilités, tout ce qui éclate. Tout ce qui rend les individus de plus en plus divers, ça c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse.
Moi, j'avais été surpris dans une réunion à Sciences Po, où à la fin du topo qui démontrait que l'utérus artificiel, c'est pas pour aujourd'hui, ni pour demain,
sûr,
ni même pour après-demain. Quand la journaliste a demandé à la salle qui serait pour l'utérus artificiel, dans ce milieu-là, j'entends, il y avait quasiment une majorité qui s'évoquait. Bon, après, on n'a pas eu le temps de voir les conséquences pour l'enfant possibles, enfin sûrement délétères, et etc., etc., et même la possibilité. Mais voilà, donc vous avez pris effectivement certaines position, et je rappelle donc votre dernier livre, 2018, « Comment l'amour empoisonne les femmes ». Sur le thème de l'asexualité, Peggy Sass, il y a eu un certain nombre d'ouvrages qui s'approchent. Il y a « La tyrannie du plaisir » qui revient un petit peu à montrer cet état des lieux dans nos sociétés, où il y a une présence un peu peut-être trop grande pour certains, en tous les cas, et constitue une tyrannie du plaisir. Il y a « La révolution asexuelle » qui a été publié par Jean-Philippe de Tonnac chez Albin Michel en 2006, « L'envie » de Sophie Fontanelle chez Robert Laffont en 2011. Donc, il y a une présence de plus en plus grande, je dirais, de reconnaissance, encore une fois, de cette population. Et vous y avez participé. Votre livre se lit très rapidement. Il est très intéressant pour ceux qui ne connaissent pas et qui veulent comprendre ce que c'est que cette situation d'avoir envie de ne pas faire l'amour. Voilà, merci de votre passage avec nous. Vous êtes sur France Culture, et cette émission, partenariat avec le quotidien du médecin, a été possible grâce à Catherine Denet, Sandrine Chaperon, Dany Journaud, Nino Lima, Manuel Couturier. Vous pourrez retrouver toutes ces informations sur nos émissions de la semaine sur le site internet franceculture.fr, et surtout les réécouter, puisque vous le savez, ce sont des séries. Il y a 5 thèmes autour d'un thème central, et là nous venons de terminer la spiritualité, sexualité, et paradoxalement avec nos sexes, mais je ne sais pas si on a gagné en spiritualité. En tous les cas, inscrivez-vous pour le podcast et pour une écoute à la carte, et bientôt pour une nouvelle série.